Un plaisir, comme toujours, de vous retrouver pour le résumé de l'actualité économique de la semaine. Cette semaine était essentiellement dominée par la 11e édition des IPAD RDC. Une fois de plus, cette conférence internationale qui met sous un même toit opérateurs miniers, décideurs et potentiels investisseurs a ouvert ses portes les jeudis derniers à Kinshasa. Dans cette édition, nous parlons du pourquoi de cette conférence en RDC, des gagnants des prix de cette édition et la particularité de cette année. 50 meilleurs projets bancables des jeunes entrepreneurs seront financés par la présidence de la République. Ces projets seront sélectionnés parmi ceux déposés à la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Qu'est-ce qui fait la force des Randgold Mining, des géants miniers qui a remporté un double prix à IPAD 2015? Le directeur de Kibali Gold Mining, une de ses composantes, nous parle des actions sociales menées par cette entreprise en 6 ans d'existence.
Panorama économique, le dossier.
Bonjour et bienvenue à tous dans Panorama économique. L'actualité de cette semaine était essentiellement dominée par la tenue de la 11e édition des IPAD RDC. Entendez, Indaba Mine et Infrastructure en RDC. IPAD RDC est organisé par Spintelligent, l'organisateur leader en conférences et expositions basées à Cape Town. Ce forum se veut un rendez-vous international qui rassemble investisseurs, gouvernements et fournisseurs sous un même toit. Pendant 2 jours, les participants venus de 7 pays africains et d'ailleurs ont exploité différents thèmes autour de l'industrie minière en RDC. Plus de détails avec Suzanne Zobo. Au menu de cette 11e édition, il était prévu des séances B2B et table ronde des PDG, des séances ciblées pour parler des dernières nouvelles sur les projets en cours et 2 jours d'exposition et des démonstrations des produits. La séance d'ouverture était axée sur le sous-thème « Fournir une solide croissance économique en RDC grâce aux investissements et à la gouvernance dans les industries extractives ». 3 séances étaient prévues. La première a porté sur la cartographie des zones d'exploration et analyse des gisements viable au sein de la régulation actuelle. La deuxième a tablé sur les récents développements au sein des activités parmi les opérateurs miniers. Et enfin, la troisième est revenue sur investir dans les secteurs miniers, fonds privés, dettes et levée des capitaux. La deuxième journée avait été marquée, elle, par 2 temps forts, 3 séances de travail et la cérémonie de clôture. La première séance a porté sur le potentiel minéral du Congo central, les nouvelles Eldorado des miniers. La deuxième sur promouvoir la RDC sur la scène internationale, adaptation à des conditions de marché parfois contraignantes, et la troisième a exploité le sous-thème traçabilité, fraude et exploitation minière artisanale et mesures de diligence. Et la séance de clôture a tablé sur le sous-thème quelle vision pour les futurs investissements dans l'industrie extractive en Afrique centrale. Rappelons que l'IPAD RDC est un événement stratégique et international permettant aux acteurs clés de l'industrie minière et aux investisseurs d'accéder au potentiel minier de la RDC. 2 jours d'événements ont mis en contact les opérateurs miniers et les investisseurs potentiels avec les gouvernements et les fournisseurs, offrant ainsi aux parties prenantes de l'industrie un aperçu critique de l'avenir du secteur minier en RDC. Enfin, signalons qu'au cours de cette édition, on a procédé à la remise de prix de l'industrie minière en RDC. Ce prix récompense l'excellence dans le secteur minier, mais aussi les personnes et les entreprises qui ont apporté une contribution significative à l'industrie minière. Toujours à ces sujets, pourquoi cette conférence se tient en RDC? Quelle est la particularité pour cette année? Nous avons tendu le micro à Nicole Smith, directrice de la conférence IPAD RDC. Elle est revenue sur la raison d'être de cette conférence en RDC et son historique.
Suivez. IPAD RDC était lancé en 2005. Pourquoi en RDC? La RDC est un pays de la richesse, les ressources naturelles sont beaucoup. Quels sont les bénéfices d'un forum comme IPAD? C'est une opportunité d'abord pour le gouvernement à donner leur message et leur vision à tout le monde. Mais c'est aussi une opportunité pour ceux qui ont investi à exprimer leur vision, leurs défis et leurs idées pour améliorer le climat des affaires ici. C'est aussi une opportunité pour le secteur minier, par exemple, d'échanger et trouver des solutions en commun.
Concrètement, qu'est-ce qui a déjà été fait grâce à IPAD?
Grâce à IPAD, il y a des compagnies qui peut-être seul ne veut pas venir en RDC à cause de peut-être des mauvaises perceptions, ils ne sont pas très formés par rapport aux opportunités en RDC, mais il se sent avec une forme comme il passe, il peut venir avec une délégation et ils peuvent rencontrer tout le monde. Un exemple, c'est SRK Consulting.
Après Kinshasa, vous serez à Lubumbashi pour la semaine minière de Lubumbashi. Y a-t-il une différence entre les deux assises?
Absolument oui. À Kinshasa, le cible, c'est sur le contenu. C'est une conférence qui soulignait les points différents par rapport au cadre légal du secteur minier, l'investissement, le financement. Et aussi, Kinshasa est le centre du gouvernement congolais. À Lubumbashi, c'est vraiment une foire, c'est un marché, parce qu'on a beaucoup des opérations minières là-bas, ou pas loin de Lubumbashi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de fournisseurs qui viennent. Nous avons des ateliers techniques pour ceux qui travaillent sous les mines.
Après Kinshasa, IPAD RDC sera suivi de la semaine minière du Katanga qui commence déjà ce mardi à Lubumbashi. Et bouclons ces dossiers par la remise des prix des gagnants pour cette 11e édition de IPAD RDC. À ce sujet, sachez que Randgold Resources et Tekken Fungurume sont les grands gagnants à la remise des prix de l'industrie minière en RDC cette année. Quant au prix de la femme de l'année dans l'industrie minière, il a été décerné à Soraya Aziz sous ancienne directrice adjointe du centre Carter. Encore une fois, Suzanne Zobo nous en dit plus. Randgold a remporté une double victoire, notamment avec le titre de l'entreprise ayant montré la meilleure performance pour la sécurité et la santé au travail, un prix qui se justifie par le fait que cette compagnie offre des services médicaux de base gratuits aux salariés et à leurs familles immédiates et aux membres de la collectivité dans un rayon de 10 km autour de chacune de leurs mines. Le PDG de cette compagnie s'est vu remettre le prix pour Lifetime Achievement à la remise de prix de l'industrie minière. Un prix remis à un individu du secteur privé ou public ayant considérablement contribué au succès de l'industrie minière en RDC au cours de sa carrière. De son côté, Teke Fungurume Mining remporte aussi deux prix. Le premier en tant que compagnie minière de l'année et le second pour la meilleure performance en gestion environnementale grâce à son programme environnemental de plus de 50 millions de dollars dont le but est de réduire les impacts négatifs et de soutenir le programme sur la biodiversité. Une nouvelle catégorie de prix cette année, c'est le prix de la femme minière de l'année. C'est Soraya Aziz Suleiman, ancienne directrice adjointe du centre Carter, qui l'a gagné. Elle est une spécialiste du développement, travaillant pour une société minière congolaise dans la province du Kivu. Pour sa part, Banro Corporation rafle le prix du meilleur investissement social avec environ 70 projets d'un coût total de près de 5 millions de dollars réalisés au cours de 9 dernières années. Notez enfin que la remise de prix de l'industrie minière s'est tenue pour la deuxième fois afin de rendre hommage aux individus et projets ayant apporté une contribution positive au secteur minier. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci des jeunes entrepreneurs qui sont appelés à déposer des projets bancables auprès de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNJEC en sigle. C'est précisément au niveau des galeries Saint-Pierre sous l'avenue Colonel Mondjiba à Kinshasa. Bientôt, la présidence va financer les 50 meilleurs projets de ces jeunes entrepreneurs d'après les directeurs du cabinet de la présidence qui l'a annoncé au cours de la sortie officielle des FNJEC, une plateforme privée. Eric Makwala, directeur général de la FNJEC, explique la procédure à suivre pour être sélectionné.
Je crois que les termes de référence ou la feuille de route n'est pas encore définie et le directeur de cabinet nous a fait cette surprise lors de notre cérémonie de sortie officielle. Ce qu'il faudra de notre côté, c'est nous organiser pour déterminer la feuille de route quant à la matérialisation de cette promesse et nous nous y attelons déjà parce que le chef a dit que les financements sont déjà prêts, donc c'est à nous de nous organiser. Aux jeunes entrepreneurs, le seul message à lancer auprès d'eux, c'est qu'ils se joignent à nous afin que nous constituions ensemble un lobbying fort de jeunes qui vont travailler pour le développement de notre pays. Aux jeunes qui ne sont pas encore entrepreneurs, je leur lance aussi un autre message, je leur dis que l'avenir de demain dépend de ce que nous ferons aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec des multiples difficultés en termes d'emploi, l'une des solutions, c'est l'entrepreneuriat. Les jeunes ont des projets, mais parfois il y a des problèmes de financement. Qu'ils viennent ensemble, nous allons trouver comment pallier à cette préoccupation du financement qui ronge la jeunesse.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine en bref. D'abord, sachez que la Direction générale des recettes de la province orientale, DGRPO, a réouvert ses portes mardi dernier à Bounia. Cela après un mois des suspensions d'activité par le gouverneur Jean Bamanissa, qui reprochait à certains agents de la DGRPO Ituri l'anarchie et les désordres dans la perception des taxes. La cérémonie officielle de reprise d'activité a été présidée par le même gouverneur Bamanissa. Le 14 octobre, c'était la journée mondiale de la normalisation. Peut-on réellement parler de normes en RDC? À cette question, le président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC estime qu'on peut en parler, même si elles ne sont pas bien appliquées. Et ces normes sont en principe applicables dans tous les secteurs de la vie. Sachez aussi que l'annuaire statistique 2014 de la RDC est désormais disponible. Il a été présenté cette semaine après 20 ans d'interruption. Cet annuaire a été présenté par les directeurs généraux intérimaires de l'Institut national de la statistique en présence de plusieurs membres du gouvernement. Produit grâce au financement du PNUD, ce document permet de combler le déficit en statistiques au niveau national afin de mettre à la portée de tout chercheur de données fiables. Et puis, l'axe routier Luambo-Mitoaba-Malembankoulou dans l'ancienne province du Katanga est dans un état de délabrement très avancé. Edmond Kibawa, député national élu des Malembankoulou, qui revient de cette contrée du Katanga en vacances parlementaires, estime qu'il est urgent pour le gouvernement de réhabiliter cette route, surtout avant la période des fortes pluies. Sinon, les territoires des Malembankoulou risquent d'être coupés du reste du pays. Dans sa dernière évaluation économique annuelle, le Fonds monétaire international a indiqué que la République démocratique du Congo excelle en matière de croissance, mais reste à la traîne sur le front de la réduction de la pauvreté. Créer une plateforme des femmes qui font le petit commerce transfrontalier Rwanda-RDC, c'est autour de cet objectif que les femmes de Bukavu et de Tiagougou se sont réunies le jeudi dernier à Bukavu. Ces femmes qui font le petit commerce d'huile, de farine et divers autres produits vivriers estiment que cette plateforme va leur permettre de mener à bien les plaidoyers face aux problèmes spécifiques liés à leurs activités commerciales entre les deux pays. Cette action entre dans le cadre du projet Toshiri Kiwote de l'ONG Alerte Internationale via l'organisation dénommée Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Sud Kivu, APF en sigle. La majeure partie de ces femmes ont un capital qui varie entre l'équivalent de 50 et des 100 dollars américains. Et enfin, une mission de la Banque mondiale et du PARSA, projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, a procédé le mardi et mercredi dernier à l'évaluation de ce projet dans la Mongolie. Ils ont travaillé avec les organisations paysannes et la société civile. Les différentes parties disent être satisfaites de l'appui. Mais ce projet doit être prolongé encore d'une année en vue de terminer les travaux de construction des infrastructures en cours.
Panorama économique, matière première.
Je le disais au sommet, l'entreprise minière Randgold, qui a gagné un double prix à la conférence internationale IPAD 2015, a tenu sa dernière conférence de presse de l'année 2015. Elle a remporté le titre de l'entreprise ayant montré la meilleure performance pour la sécurité et la santé au travail. Cyril Mutombo, DG d'Equibal Gold Mining, qui fait partie des Randgold, parle des réalisations sociales qui constituent l'une des forces de cette entreprise. Suivez.
En ces 5 ans d'opération, Kibali a eu à construire plusieurs écoles dans le secteur de l'éducation seulement. Vous en comptez au moins 20. Vous comptez 2 instituts supérieurs, un à Ouattara, un à Faradje. Ça, c'est juste pour donner un exemple dans le secteur de l'éducation. Si vous passez au secteur santé, nous avons construit plusieurs cliniques, nous avons fait des dons de plusieurs équipements médicaux. et nous avons aussi travaillé pour l'amélioration justement du système sanitaire même dans notre zone. Et en matière d'eau potable, nous avons aménagé plus d'une centaine de sources d'eau qui alimentent les populations en eau potable. Et nous travaillons justement avec ces communautés sur plusieurs autres domaines. Dans le domaine agro-pastoral, nous avons investi dans des coopératives agricoles avec les communautés et nous avons essayé de relier ces communautés au marché extérieur, entre autres avec le programme alimentaire mondial, où ces communautés que nous renforçons en termes de capacités produisent des choses dont, qui sont vendues auprès, par exemple, du programme alimentaire mondial. Nous venons de compléter notre étude de faisabilité sur la grande palmeraie industrielle qui, une fois les investisseurs arrivés et l'investissement fait, pourra employer plus de 15 000 personnes dans le coin. Ça, c'est juste pour vous donner un résumé les quelques réalisations de la société, sans oublier aussi le grand programme de réinstallation où nous avons eu à déménager plus de 4 200 familles dans la cité de Kokiza. Et aujourd'hui, vous le sentez dans l'activité socio-économique à Durba. 5 ans après, vous avez 4 banques qui évoluent avec des distributeurs automatiques. Ce qui fait notre force, c'est que Randgold, c'est une société d'abord qui a de l'expérience et une société qui a ce modèle de partenariat très ouvert avec le gouvernement de la République, des différents endroits où nous travaillons, de manière à atteindre toujours des solutions gagnant-gagnant.
Et voilà, c'est la fin de votre magazine Panorama économique. Merci à Sylvain Matundu qui a assuré la mise en onde. Et merci également à vous tous qui l'avez suivi. Une émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.radiocapi.net. Et bon week-end à tous.